Bien. Donc, j'ai l'extrême honneur et avantage de me retrouver à vous présenter quelqu'un qu'on ne peut pas présenter, qui a joué un rôle extrêmement important dans la science-fiction française, qui joue encore la preuve, en écrivant des centaines de nouvelles, des romans qui ont obtenu tous les prix qu'on peut penser et qui a eu une influence sur toute une génération d'auteurs, tout en ayant une trajectoire de vie et une trajectoire d'œuvre extrêmement unique et intéressante, puisqu'il a écrit et réussi dans deux domaines a priori que l'on peut considérer comme extrêmement différents, quoique, la science-fiction et le roman dit de terroir. Je mets plein de guillemets autour. Hein. Et qui nous revient, je dois dire, en ce qui me concerne avec un grand plaisir, après une absence prolongée de 25 ans, avec des petites présences par-ci par-là, mais assez pas ce qu'elle a pu être à une certaine période. Donc la première chose que je voulais aborder, même si je n'en avais pas très envie, je crois, c'était pourquoi la SF à un certain moment et pourquoi l'avoir quittée à un autre.
Le micro, sinon ils n'entendront pas.
Bonjour. Je suis de retour dans le monde de la science-fiction que j'avais beaucoup hanté dans les années 70 et 80, et j'avoue que ça me fait un drôle d'effet. Je suis ici parce que je viens de publier, comme certains le savent peut-être, un roman de science-fiction, après beaucoup d'autres, mais longtemps après. Et après avoir publié une vingtaine de romans, donc une vingtaine de livres, parce qu'il y a eu quelques essais aussi, rattachés plus ou moins au terroir, à l'histoire régionale, à la province, je dirais à la littérature provinciale, où je me suis bien amusé, où j'ai gagné ma vie mieux que dans la science-fiction, après tout, pourquoi le cacher, et où je me suis quand même bien amusé. Je souffre beaucoup de cette frontière trop étanche entre les littératures dites de l'imaginaire et les littératures dites réalistes. Parce que l'imagination n'est pas l'apanage de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique. Pas du tout. L'apanage, enfin, on peut dire, la spécificité de ces littératures dont c'est ici le temple, c'est plutôt l'invention, et encore pas toujours. L'imagination est partout. Et voyez-vous, je vais en étonner plus d'un, je pense, plus d'une. Le roman qui m'a demandé le plus d'imagination dans les 18 les 15 ou 18 que j'ai écrits récemment, c'est l'histoire d'une nourrice du Morvan qui s'appelle Nounou, qui a eu un certain succès, je dois dire, puisqu'il y a encore un club sur internet, un club d'admirateurs de ce roman. Alors, rien de plus réaliste. Il fallait que ce soit absolument entre guillemets, hein. D'ailleurs, on met des guillemets par avance à tous les mots. Bon, il fallait que ce soit absolument vrai, absolument crédible, alors puisqu'il s'agissait de retranscrire de façon aussi, avec tout ce qu'on sait maintenant de la vie de ces femmes, de retranscrire de façon aussi précise et aussi exacte que possible, je ne dis pas vrai, la vie donc d'une jeune femme qui venait à Paris pour donner son lait. Eh bien, il m'a fallu... J'avais une documentation extrêmement précise qui m'avait été, ce qui est assez merveilleux, apportée par un autre auteur de science-fiction, Alain Grousset, que certains connaissent, qui est directeur de collection, qui est un auteur jeunesse renommé, mais qui aime aussi déborder du genre. Il m'avait apporté une documentation extraordinairement précise. Eh bien, il m'a fallu une imagination, des efforts d'imagination, comme je n'en ai jamais fait en science-fiction. Pourquoi ? Parce qu'en science-fiction, on n'a pas, on se casse pas tellement la tête, le plus souvent. On se laisse porter par une certaine puissance de rêverie.
La puissance de rêverie en question est quand même basée sur l'absorption d'une certaine quantité d'informations.
Oui, bien sûr, je ne nie pas cela. Mais voyez-vous, là, dans Nounou, à un moment, il me fallait imaginer Man Maurice qui vient d'arriver à Paris et qui se trouve dans une espèce de petite boîte comme il en existait, où elle est avec une collègue, et elles ont amené leur propre bébé qu'elles vont abandonner. Je ne sais pas si ça intéresse les amateurs de science-fiction, mais enfin, je trouve que le contraste est séduisant. Eh bien, il me fallait imaginer ces femmes en train de langer leur bébé, de se procurer le lait, d'aller et venir dans un espace qu'il fallait montrer avec une extrême précision et que je n'avais jamais vu, bien entendu. Eh bien, qu'est-ce qui m'a servi ? C'est l'imagination, c'est-à-dire la création d'images. Alors voilà, ça c'est une chose que je voulais dire. Il n'y a pas d'imagination que de la science-fiction. Il y en a ailleurs. Et franchement, si je me laissais aller, je dirais qu'il n'y a pas la science-fiction, la littérature générale, le mainstream, le terroir, le ceci ou le cela. Il y a la littérature. Et même dans les autobiographies, la part d'imagination existe. Elle est souvent peut-être... Elle est peut-être cachée, mais elle est grande aussi. J'ai reçu, il y a bien longtemps, le grand prix de la science-fiction française qui est devenu le prix de l'imaginaire. Ça me gêne un peu. Ça ne me gênait pas du tout d'avoir le grand prix de la science-fiction française. Le prix de l'imaginaire, ça me gêne plus parce que j'y vois une espèce de hold-up sur un bien commun.
Merci. On avait besoin d'entendre ça. J'ai réagi à peu près de la même façon quand le fameux prix d'imaginaire, enfin quand le prix a changé, mais bref. Ne nous éloignons pas. La nounou en question, est-ce que c'était une héroïne ?
Pardon ? Est-ce que la nounou était une héroïne ?
Est-ce que la nounou était une héroïne ? Mais bien sûr. Tous les personnages de romans sont des héros, et surtout les femmes sont des héroïnes, bien sûr. Je ne sais pas exactement ce que vous mettez dans cette question, mais pour moi c'était vraiment une héroïne, et bien sûr elle ne partait pas de la Terre pour débarquer sur quelques planètes lointaines, mais elle partait. Une paysanne, une pauvre paysanne. Elle était pauvre, forcément, puisqu'elle allait vendre son lait à Paris. D'ailleurs, son propre bébé est mort. Et ce qu'elle faisait, bien que ce soit relativement courant à l'époque, était absolument héroïque. Et donc, elle était une héroïne. Parce qu'elle était héroïque, et elle était une héroïne parce qu'elle était un personnage sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'avais beaucoup de documentation et j'ai quand même beaucoup imaginé. Et ma foi, elle a plu. Je dois reconnaître, je dois reconnaître qu'elle a intéressé bien davantage les dames que les messieurs. Bon, c'est un bouquin qui s'est vendu, différentes éditions confondues, avec un fort tirage de la France Loisirs, qui s'est vendu un petit peu plus de 100 000. Et qui est encore cité sur Internet par des lectrices. Je tombe l'autre jour sur Internet, dans un forum, d'une lectrice qui dit « Oh, je viens de lire le dernier roman de Jury. Moi, j'avais adoré Nounou. Et puis j'ai lu « Mais... » Ah, mais j'ai pas compris. Et puis, est-ce que c'est bien le même ? Alors, un autre dans le forum répondait, oui, c'est le même, mais il fait un peu de tout. Ah, je crois que la science-fiction, c'est pas pour moi. Tout ça est très drôle, mais enfin, il n'y a rien à faire ni pour ni contre cela. Céline Houroux, la nounou, était une héroïne, Je ne dirais pas que c'est une de mes héroïnes préférées, parce que, malgré tout, je trouve que elle m'a emporté dans une dérive que je n'accepte pas trop. Mais peut-être est-elle encore plus une héroïne parce qu'elle m'a échappé. Elle l'est certainement.
Je vais le faire en double...
Quand je lisais ça quand j'étais gamine, les personnages ne sont pas des héros.
Donc je posais la question de l'héroïne, parce que quand moi je lisais notamment dans certains et tous les romans se passant dans l'univers chronolithique, le fait que les personnages soient perdus et éclatés dans le temps, pour moi c'était extrêmement troublant, justement parce que c'était pas des héros, mais je le savais pas à l'époque et ça me troublait profondément. Je ne savais pas pourquoi et je m'en suis aperçue très tard. C'est pour ça que je posais cette question. Et la question aussi, est-ce que dans Mais le monde, donc le dernier roman paru chez Lafon, est-ce que c'est une héroïne?
Oui, alors là c'est le problème des héros, des héroïnes et des anti-héros. Je note qu'il y a beaucoup. Dans une certaine science-fiction, il y a beaucoup d'anti-héros. On voit moins d'anti-héroïnes. Je ne me cache pas d'avoir écrit, en dehors de la science-fiction, des romans populaires. Ah, on m'avait assez dit que j'écrivais pour une élite. Eh bien oui, j'ai dit, je vais me mettre à écrire pour le bon peuple. Et le bon peuple a aimé, et le bon peuple m'a aimé, et j'aime le bon peuple. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer aussi les anti-héros de la science-fiction. Dans ces romans populaires, souvent historiques ou souvent autobiographiques, est-ce qu'il y a aussi des anti-héros ? Oui, il y a aussi des anti-héros. Et chaque fois que j'écris un roman autobiographique, ou un peu autobiographique, c'est-à-dire que j'ai écrit mon enfance un certain nombre de fois, je l'ai finalement, tellement raconté mon enfance sous des versions différentes que je ne sais plus quelle est la bonne. C'est un peu ennuyeux. Mais oui, chaque fois que j'écris, que je parle de moi, directement ou indirectement, dans un roman réaliste, entre guillemets, j'ai un anti-héros au centre de l'histoire, parce que c'est moi et parce que je me sens vraiment l'anti-héros parfait. Il n'y a pas plus anti-héros que moi. Enfin, je me vante.
Et vous pouvez nous parler de Mai un petit peu plus, de Mai de la petite fille dans Mai le monde. Quel genre de petite fille c'est? Qu'est-ce qu'elle, pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle
J'aimerais bien que vous nous parliez de Mai dans Mai le monde.
Alors Mai de Mai le monde. Après tout, ressemble énormément à quelques-unes de mes héroïnes de mes romans populaires. Par exemple, j'ai écrit il y a pas loin de 20 ans un roman qui s'appelle Au cabaret des oiseaux et dont l'héroïne est une petite fille qui a à peu près l'âge de Mu, une dizaine d'années, et qui parle à la première personne. On peut considérer que pour un vieil auteur de science-fiction, entre autres choses, raconter une histoire à la première personne par la bouche d'une enfant, ou d'ailleurs d'une jeune femme, ce que j'ai fait souvent, après tout c'est du fantastique, si l'on veut. Mais ressemble au départ à l'héroïne, je crois que j'ai oublié son nom d'ailleurs, au Cabaret des Oiseaux. C'est une petite fille tout à fait ordinaire, sauf que par rapport à mes héroïnes, elle vit à notre époque, ou peut-être un petit peu en avance, ou peut-être dans un univers légèrement parallèle ou adjacent. C'est une petite fille tout à fait ordinaire, une petite campagnarde, mais elle est à Paris, elle est hospitalisée pour une maladie qui est sans doute une forme de leucémie, et elle est dans le coma, probablement, et elle a une double vie, celle que probablement elle rêve dans son coma, et celle qu'elle a, parce qu'elle est peut-être dans le coma, mais elle est aussi peut-être en rémission et en vacances chez son grand-père dans la forêt du Périgord. Elle est dans deux vies et elle est en train peut-être de mourir et de devenir le monde. Mais, cela dit, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à... Et je crois que c'est assez important quand même... On n'en a pas assez parlé, il me semble, dans les tables rondes que j'ai entendues. Qu'est-ce qu'elle a de différent, outre que le dans un univers, dans un monde parallèle, tout petit peu différent? Non, ce qu'elle a de différent, c'est le langage. Elle parle un autre langage qui n'est pas très loin du langage jeune, actuel, mais qui est quand même un peu différent, avec quand même beaucoup, beaucoup d'expressions, beaucoup de mots créés, et elle est différente par le langage, les mots qu'elle prononce, les mots qu'elle connaît, les mots qui décrivent ce monde, et c'est pour ça que j'aurais voulu dire ce matin, quand j'ai posé une question sur le langage, oui, je crois que l'imagination... et vient pour une grande part des mots. L'imagination est plus, l'imagination créatrice, elle est plus dans les mots que dans les images. C'est pas très difficile pour un auteur, qu'il soit de science-fiction ou de littérature générale, de créer des images. Que ce soit des images réalistes ou que ce soit des images inventées, certains auteurs sont plus doués que d'autres, certes. Mais enfin, quand on regarde, par exemple, les paysages extraterrestres, les monstres extraterrestres et les bons extraterrestres, ils sont pas... On sent très bien d'où ils viennent. Ils viennent, comme ça a été dit, comme Gérard Klein le disait ce matin, ils viennent tout simplement... et tout bêtement de notre réel par toutes sortes d'associations, de combinaisons. Les mots, c'est plus difficile. J'ai peiné des années après des essais infructueux pour essayer de mettre au point un langage un tout petit peu différent d'une autre, mais compréhensible quand même. Et l'imagination dans « mais », elle vient presque uniquement des mots, du langage et des mots qui décrivent les choses et aussi de la construction syntaxique. Il n'y a pratiquement pas d'invention d'image, je ne l'ai pas voulu. Je crois que nous sommes extrêmement tributaire des mots. et de tout le langage, la création est indissociable du langage. Et je souffre toujours un petit peu, même si j'aime beaucoup lire des romans d'aventure de science-fiction, d'espèces opéra. J'avais par exemple beaucoup aimé récemment la série Hyperion et la série L'Aube de la Nuit, mais je souffre toujours un petit peu que toutes ces histoires soient racontées exactement comme le dernier polar ou n'importe quel roman de genre ou pas de genre actuel. Alors, quelqu'un disait, je crois bien que c'est Gérard Klein encore lui, que le véritable roman du futur est impossible à écrire puisque le nombre de mots incompréhensibles pour nous, il serait si grand que ce serait absolument illisible. Alors, ça n'empêche pas quand même un petit effort de création lexicale. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. En dehors de cela, mon roman est, je crois, assez lisible et assez simple. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais enfin... Mais est en train de mourir. Le monde dans lequel elle vit, ou que peut-être elle rêve, ou qui est peut-être quelque chose d'intermédiaire entre le réel et le rêve, ce monde, elle y est de plus en plus seule. Tout le monde le déserte jusqu'à la fin où elle va se retrouver entièrement seule. Ça, c'est un côté de l'histoire. Oh, puis je vous la raconte toute, quoi. Et puis, pendant ce temps, d'autres personnages, eux, à travers toutes sortes de péripéties, à travers l'intrigue, tous ces personnages investissent le monde de May, et à la fin, May sera devenu un monde ou une infinité de mondes. Elle aura quitté le petit monde où elle vivait. Et les autres personnages y arrivent et y débarquent. J'ajoute que je crois très fermement que le monde est infini, que l'univers est infini. Je suis plus ou moins attaché à la théorie des cordes, tout prêt à lâcher la corde de temps en temps, c'est bon. Je suis tout prêt à la lâcher quand on m'aura démontré qu'elle est insuffisante, sinon fausse. Et ça m'embête un petit peu que depuis 20 ans, bientôt, la théorie des cordes soit là, pendante, comme une corde, et qu'en en fait, on ne progresse pas vraiment dans la connaissance de l'univers à travers la théorie des cordes. Enfin, peu importe, je crois que l'univers est infini parce que je n'arrive pas à concevoir ce minuscule petit machin sorti du Big Bang, qui est un seul Big Bang. Maintenant, si l'on se met à rêver à l'infini, on risque de subir ce qui est arrivé à Cantor, Jörg Cantor, qui a fini dans un asile. En réalité, on est coincé. Parce que on ne peut, enfin, un certain nombre de gens sont coincés. Moi, je ne peux pas arriver à concevoir un univers qui ne soit pas infini, transfini, dans l'infinitude. C'est-à-dire que un monde, bien entendu, ça s'est dit un million de fois, un monde où chacun de nous est ici exactement comme nous sommes, puis une infinité de mondes où il y a une petite différence. Un monde aberrant où je tiens deux micros. Un monde presque aberrant aussi, où j'ai pris la bouteille de Sylvie Denis. Un monde, une infinité de mondes, où dans cette salle, il y a des milliers de personnes qui écoutent les choses fabuleuses que je suis en train de raconter et qui les bouleversent. Et naturellement, une infinité de mondes où rien de tout ça ne se passe. Une infinité de mondes où il n'existe que des bovidés ou des singes ou des oiseaux chemises. Les oiseaux chemises sont des personnages de mon roman. Et une infinité de mondes où il n'y a rien. Et la question qui se pose, bien sûr, tous les mondes, tous les univers possibles doivent exister. Mais qu'est-ce que le possible ? On n'en sait filtre rien. Et j'aurais tendance à penser que même les univers, hein, c'est ce que je raconte dans une nouvelle qui est parue dans le Escale en Utopie, que même l'impossible existe et qu'il y a aussi une infinité d'univers remplis de tous les impossibles. Alors ça nous laisse beaucoup de place. Ça laisse beaucoup de place à la science-fiction, bien sûr, à la fantaisie et sans doute un peu moins à la littérature réaliste.
D'autant plus que c'est que May et son langage sont un monde très très doux. J'ai trouvé que c'était très
c'est très doux à la lecture, May. Ça donne. Et ça donne un reflet de notre monde.
Oui,
alors, je disais que c'était très doux le langage de May et son monde, alors que sa situation, elle, est très dure, mais son monde est très doux. C'est assez étonnant comme combinaison quand on lit le livre.
Oh, vous savez, je suis un peu fatigué en tant que lecteur de ces horreurs que l'on nous débite, ces mondes de plus en plus affreux. Maintenant, vous ouvrez un polar, il y a 9 chances sur 10 que vous tombiez sur une histoire de tueur en série. Le plus beau livre, me semble-t-il, des 20 ou 30 ou 40 dernières années, c'est le prix Goncourt d'il y a 2 ou 3 ans, c'est Les Bienveillantes de Jonathan Little. C'est aussi, bon, c'est l'histoire, comme vous savez, c'est l'histoire d'un colonel nazi, d'un SS. C'est un tissu d'horreur qui dépasse évidemment les 50 ou 100 dernières histoires de tueurs en série. Et c'est une horreur qui a une justification parce qu'elle a existé. Et Jonathan Little la traite de façon géniale, c'est un bouquin génial. Mais c'est quand même ce tissu d'horreur qui est difficile à supporter. Alors j'ai plutôt envie, maintenant, d'écrire des livres dans une certaine douceur. Et c'est pour ça que j'ai choisi une petite fille, pas si innocente que ça, mais enfin quand même un petit peu. Et dans l'espoir que, en mourant, elle va devenir un monde qui lui ressemble. C'est pas sûr qu'elle ait réussi. Parce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire de savon dans May qui évoquera certaines choses au lecteur d'un certain âge, sans doute, et peut-être aux jeunes aussi.
C'est un des trucs géniaux du bouquin. Il ne faut pas leur dire.
Il ne faut pas leur dire le savon. Que ça soit une surprise.
Mais apparemment, tout le monde de May n'est pas dans le roman, parce qu'il y a au moins une nouvelle dans le numéro de Galaxy qui vous est consacré, où on voit d'autres aspects du monde de May.
Dans la nouvelle dans Galaxy, on voit d'autres aspects du monde de May.
La nouvelle de Galaxy, alors, est-ce que c'est le monde de May ? Je n'en sais rien. C'est le monde du grand lien. Au départ, j'étais parti sur cette idée du grand lien. Je trouve que notre société manque vraiment. Tous les liens se défont. Enfin, il n'y a qu'à voir la situation sociale et politique. Les liens disparaissent à très grande vitesse. Autrefois, il y avait dans le courant, dans le quotidien, infiniment plus de liens que maintenant. Et que l'on soit croyant ou pas, la religion, hein, comme son nom l'indique, était aussi un lien. Peut-être fallacieux, je n'en sais rien, il ne m'appartient pas d'en juger. Mais enfin, on vivait dans un monde de liens qui est en train de disparaître. Et j'ai eu envie d'imaginer un lien qui apparaîtrait, alors là c'est de la science-fiction, vraiment, un lien, qu'est-ce que serait ce lien? Ça pourrait être, hypothèse, l'intelligence de l'univers qui émerge après des milliards d'années, elle arrive à nous. Il y a aussi une hypothèse qui est traitée dans le bouquin qui est l'auteur anglais méchant. Il y a Éveil, qui imagine une entité née dans le web. C'est pas la tasse de thé, le web. Mais enfin. Donc j'ai voulu inventer, c'est pas une grande invention, c'est à peine de l'imagination, ça relève à peine de l'imaginaire, ça relève surtout de l'optimisme. J'ai voulu donner aux gens de l'avenir ou d'autres univers le lien, un lien un peu magique, c'est certain, qui manque tellement, qui prendrait la place de tous les liens que nous avons perdus. Et donc j'ai commencé, mon projet c'était le grand lien, mais le monde de mai serait un petit élément du grand lien. Je ne sais pas si je finirai cette histoire parce que je suis découragé un peu par l'évolution de la société. Ça serait, alors je me dis non, ça serait trop beau. Alors si on leur propose un grand lien magique, eh bien ils vont l'attendre au lieu de s'en fabriquer comme ils en ont tant besoin, ces braves humains. Enfin, en gros, c'est ça. Dans la nouvelle dans Galaxy, c'est le monde du grand lien après l'homme. C'est un peu le monde de mai, ou plutôt le monde de mai est une parcelle du monde du grand lien.
Mais les hommes n'ont pas le beau rôle dans le monde du grand
Alors,
lien.
Alors, les hommes ont-ils le beau rôle dans le monde du grand lien? Non, sans doute. Et dites-moi, quand vous voyez comment les humains, je préfère dire les humains, parce que dans les hommes et les femmes, alors, elles ne sont pas blanches comme neige, c'est elles qui découpent la viande, ou qui la font cuire. Non, mais croyez-vous que les humains ont un si beau rôle dans notre monde? Il y a les guerres, les massacres, les génocides, mais après tout, on peut dire, c'est une affaire humaine, hein. Bon, ils s'entretuent. Mais la façon dont les humains traitent les animaux, et en particulier ceux qu'ils consomment, je ne parlerai pas de la corrida, c'est très anecdotique, mais voyez ce qui se passe dans les abattoirs et encore pire, dans les transports du bétail. C'est absolument horrible. Et à 100 000 autres choses, il y a un écrivain de science-fiction, enfin au bord de la science-fiction, qui l'a dit beaucoup mieux que moi, c'est Jean-Pierre Andrevon. Jean-Pierre Andrevon, qui dans la science-fiction est le plus grand défenseur des animaux, eh bien, il a raison. Et je pense qu'un certain nombre de gens ont lu sa nouvelle Le Monde Enfin, qui est devenu un livre, qui a donné son titre à un livre. Et Le Monde Enfin, pourquoi enfin, le monde est enfin rendu aux animaux. Non pas que les animaux aient sans doute un plus grand droit au monde que les humains, mais les humains se sont tellement mal conduits qu'après tout, les animaux devraient faire mieux. Alors, que les humains n'aient pas de beau rôle dans le dans ceux d'après, dans cette nouvelle, c'est bien voulu. Les êtres qui leur ont succédé sont quand même très près des humains. Et comme c'est une nouvelle optimiste, eh bien, ils sont meilleurs que les humains. Enfin, on peut l'espérer. Il faudra voir dans un million d'années ce qu'ils seront devenus.
Mais l'homme est un animal.
L'homme est un animal d'une...
Oui, alors, bon, vaste problème. L'homme...
Mais je trouve qu'on est dur avec nous-mêmes. Je trouve que... Ah. Après tout, rien ne nous préparait en tant qu'espèce à ce qu'on sache d'un bout à l'autre ce qu'on devait faire ou ne pas faire pour avoir des incidences sur le monde. Donc j'en ai un peu marre de du côté accusons-nous, on est les méchants. En tant qu'espèce, on fait juste essayer de survivre. Bon, on se démerde assez bien finalement pour survivre avec effectivement des dégâts. Mais je trouve qu'on devrait être plus gentil avec nous-mêmes.
Quelqu'un veut dire quelque chose ?
On ne t'entend pas avec son micro. Tenez.
Tu viens de citer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché originel. Nous accusons parce que nous avons mangé ce fruit.
Ah bon ? Je sais pas, moi je suis pas au courant de cette histoire-là.
Oui.
Puisque quelqu'un a pris le micro, si je pense qu'il nous reste un tout petit peu de temps. Si vous avez des questions, je pense que ça serait le bon moment.
Moi je n'ai pas de réponse à tout ça. Si j'avais une réponse, ça se saurait, n'est-ce pas? Il y aurait des milliers de médias dans le monde qui diraient, ça y est, je ris à la réponse. Enfin la réponse. Le monde, enfin, non, enfin la réponse. Je ne sais rien de plus que...
Oui, j'avais une question. Votre roman paraît surtout un roman de passage entre les dimensions, en fait, de voyage que des humains traversent, à travers que ce soit psychique ou que ce soit réel.
C'est un monde qui est un monde de dimensions, de voyage entre les dimensions psychiques.
Oui. Tout à fait ça. Tout à fait ça, avec une particularité que j'avais déjà essayer d'esquisser dans la série Les Colmatères, basée sur les fractales, avec toute une série d'univers, les uns plus perméables aux échanges entre dimensions et les autres complètement imperméables. Et l'idée, c'est que notre univers, notre monde, serait un monde assez imperméable. C'est ce que j'appelle dans Les Colmatères les mondes verniens. Mais c'est juste, c'est ça aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est ça.
Non, oui.
Allez bien près du micro, j'ai l'impression qu'il entend pas.
D'accord. Oui, merci Michel. Et merci Sylvie. Juste une question tout à fait banale et classique. Et après Mais le monde, que peut-on espérer? Est-ce que tu travailles sur des nouvelles? Est-ce que tu as aussi le format de la nouvelle en tête? Est-ce que tu, voilà, ou est-ce que c'est plutôt vers des romans encore? Qu'est-ce qui nous attend?
La question est tellement bonne que je suis bien incapable de répondre. Les bonnes questions sont celles auxquelles on ne peut pas répondre. Quand on peut répondre à une question, c'est qu'elle est ou très ponctuelle ou impossible. Non, j'en sais rien. J'ai l'impression d'avoir réussi d'une certaine façon à dire ce que je voulais dire dans Mais le monde. Et par contre, je n'ai fait qu'esquisser ce que je voulais dire dans les deux nouvelles inédites qui sont parues récemment, celle de Galaxy, donc ceux d'après, et celle de Escale en Utopie, le cinquième horizon. Mais c'est effectivement, peut-être, par les nouvelles que je pourrais continuer, le d'écrire de la science-fiction dans le peu de temps qui me reste sans doute, parce que j'ai aussi des choses en cours dans les romans traditionnels que j'écris. Et tout très franchement, en tant que roman, après mai, je ne sais pas quoi faire. Alors ce que j'aurais envie de faire, mais ça n'est qu'une envie, il y a dans mai, je crois, un petit côté d'humour quand même, symbolisé par un certain docteur Goldberg. Le nom du docteur Goldberg vient d'un certain Rube Goldberg, dont les physiciens parlent volontiers, et qui est l'inventeur de mécanismes physiques extrêmement compliqués, ce qu'on appelle en France une usine à gaz. Eux, ils appellent ça une machine de Rube Goldberg. Et le docteur Goldberg, étant en quelque sorte l'entité bienveillante qui veille sur le monde de mai, donc symbolise cette machine un petit peu compliquée. Mais là, il y a, je crois, un peu d'humour. Et comme tout ça est très triste, parce que il s'agit de la mort, finalement, c'est quand même... Bon, c'est pas si triste que ça, mais enfin, c'est pas non plus très gai. Je voudrais maintenant écrire des choses drôles, en science-fiction ou pour le reste. Voilà. Est-ce que je pourrais? Je n'en sais rien. Je suis fatigué. Pas maintenant, pas en ce moment. Vous tous, là... près de moi, me donner une force que je n'ai pas tout seul, mais dans la vie courante, je suis extrêmement fatigué et je trouve que la science-fiction, c'est quand même bien fatigant. Et même s'il ne faut pas plus d'imagination pour écrire un roman, mais que pour écrire celui que je viens de publier qui s'appelle Les Beaux Jours en traditionnel, qui s'appelle Les Beaux Jours du docteur Nicolas, il ne faut pas plus d'imagination, non. Il faut plus de travail. La science-fiction est un genre difficile parce qu'il demande beaucoup, pour moi du moins, enfin je pense que c'est quand même vrai pour la plupart des autres, par exemple pour Hugo Bellagamba, qui est ici, c'est un genre qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et je suis bien fatigué, pardon. J'espère qu'il n'était pas aussi fatigant de m'écouter.
Non.
Vous êtes trop gentil. Vous méritez de vivre dans un monde meilleur. C'est ce que je vous souhaite.
Je pense que nous le méritons tous. Ben, nous vous remercions de votre présence et de votre attention. Je pense qu'on va te retrouver en train de signer des livres à un moment, il me semble. Ça doit être prévu quelque part à la librairie.
On rend les armes.